France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France, une émission proposée par Alexis Lacroix. Bonjour chers amis, chères auditrices, chers auditeurs de France Culture, on est très heureux de vous retrouver à divers aspects de la pensée contemporaine avec nos équipes techniques pour reprendre une belle année d'émission avec vous. Et pour commencer en beauté ce cycle d'émissions, nous avons le plaisir au Grand Orient de France de recevoir ce dimanche matin Philippe Foussier, qui est un ancien grand maître d'ailleurs de l'obédience maçonnique française. Il est vice-président d'une association de combat qu'il a fondée Unité laïque avec l'ami Jean-Pierre Sakoun, auteur de plusieurs essais dont Combat maçonnique aux éditions Conforme, ainsi que très récemment de Marianne aux éditions Dervy, les indispensables éditions Dervy. Et par ailleurs, bonjour Philippe.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous à divers aspects de la pensée contemporaine en ce dimanche matin. Vous avez signé récemment dans l'excellent semestriel DDV de la LICRA un article refondateur, j'ose le dire, oui, sur la question de l'universalisme. L'universalisme qui est au cœur de la matrice d'une république démocratique comme la France, dans son histoire mais aussi dans son présent. Alors j'ai envie de vous commencer par une question très simple. Il y a beaucoup de propositions dans cet article. Ce n'est pas simplement un article de Yaka Faucon, comme on dit aujourd'hui, Philippe Foussier. Il y a des propositions, et des propositions qui, pour certaines, pourraient être mises en œuvre dans l'espace public. Vous écrivez, et on va commenter tout cela, il nous faut prioritairement restaurer l'individualisme des Lumières, là où nos adversaires entendent sans cesse nous assigner à des catégories collectives. Alors, qui sont, commençons par le commencement, qui sont ces adversaires, ou qui sont même, pourquoi pas, disons-le, ces ennemis de l'universalisme émancipateur, Philippe Foussier?
Bien, ce sont tous ceux qui flétrissent le legs des Lumières, et donc qui proposent, à travers des discours de condamnation de cet héritage, de revenir sur ce qui a fait l'acquis du siècle des Lumières, les acquis du siècle des Lumières, sur lesquels, bien sûr, on peut discuter, il peut y avoir débat, mais la caractéristique de ces courants, c'est qu'ils condamnent sans appel à la fois l'universalisme, proposant un autre modèle de société, ils condamnent le rationalisme, en ce sens qu'il a proposé au siècle des Lumières, non pas le monopole absolu de la raison, mais le primat de la raison sur d'autres manières d'appréhender le monde, et puis la notion de progrès, par exemple. Ce sont des notions qui sont aujourd'hui contestées, attaquées, vilipendées par des courants, qu'ils soient politiques ou religieux, qui ont tous pour caractéristique de s'inscrire dans une logique identitaire.
Alors je rappelle que nous sommes ce matin, pour commencer en beauté l'année, de divers aspects de la pensée contemporaine, en compagnie de Philippe Foussier, qui est essayiste, ancien grand maître du Grand Orient de France. Vous êtes vice-président d'Unité laïque. Et vous parlez dans cet article, paru dans Le Droit de Vivre, qui est un long article de fond, philosophique. Vous parlez d'une fulgurante désécularisation. Cette fulgurante désécularisation, quel symptôme la voyez-vous prendre, justement, quel signe la voyez-vous adopter dans la société française en cette rentrée de 2025, Philippe Foussier?
Alors, en cette rentrée, mais on pourrait dater le phénomène déjà depuis un certain temps, c'est l'irruption depuis quelques décennies, mais aggraver, approfondir des questions religieuses dans le débat public. Et c'est le fait que ces questions religieuses, ces revendications religieuses reviennent, s'imposent dans le débat public parce que elles sont à l'agenda d'un certain nombre de courants religieux et relayées parfois par des courants politiques. Et donc nous sommes dans une phase, en effet, où après des décennies, voire des siècles de sécularisation, nous sommes à nouveau plongés dans un phénomène inverse.
Alors, vous posez une question évidemment fondamentale. au regard de ce modèle français, même si vous n'avez pas prononcé l'expression, mais que vous avez en tête quand vous réfléchissez à l'universalisme républicain et émancipateur. C'est le degré de visibilité dans l'espace public des phénomènes religieux qu'une république comme la France, eu égard à son histoire, qui n'est pas celle du monde anglo-saxon, peut tolérer, peut supporter. Où est-ce qu'on doit aujourd'hui, quand on est un républicain, un progressiste, mettre le curseur, d'après vous, Philippe Foussier ?
Nous sommes dans une société qui ne partage pas toutes les caractéristiques de ses voisines immédiates, et notamment en Europe. Parce que la France présente cette particularité d'avoir sur son territoire une majorité de non-croyants et d'agnostiques. Et lorsque vous vous rendez en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, vous ne connaissez pas cette réalité-là. C'est-à-dire que les non-croyants, ou les athées a fortiori, sont une extrême minorité.
Mais est-ce qu'on peut renvoyer, comme vous le faites dos à dos dans cet excellent article du droit de vivre, Philippe Foussier, les flatteries de quelques responsables politiques, à droite vis-à-vis du catholicisme, écrivez-vous, et à gauche vis-à-vis de l'islam. Est-ce que c'est aussi schématique que cela ? Est-ce que c'est aussi symétrique que cela ?
Alors bien sûr, les généralisations emportent toujours avec elles un schématisme. Donc on pourrait aller dans le détail pour nuancer tout cela. Mais la réalité, en effet, c'est que nous voyons, lorsque des questions religieuses se posent, la plupart des responsables de droite avoir une forme d'indulgence ou de complaisance vis-à-vis de tout ce qui concerne la chrétienté et notamment le catholicisme. Et de l'autre côté, à gauche, vous avez une propension à l'indulgence, à la complaisance vis-à-vis des revendications de l'islam et même, c'est ça peut-être la nouveauté de la période, de l'islamisme. Parce que il y a dans certains courants politiques désormais une forme de connivence avec l'islamisme et non plus simplement l'islam. Je fais bien, j'insiste sur la nuance entre les deux termes, islam et islamisme.
Alors, il ne faut pas évidemment ne voir que les points les plus critiquables ou les plus préoccupants de cette réalité française en cette rentrée de 2025. On est dans divers aspects de la pensée contemporaine. On est avec vous, cher Philippe Foussier, ancien grand maître du Grand Orient de France. Vous avez publié un article un peu refondateur à la reconquête de l'universalisme émancipateur, tout un programme. Quels sont les lieux de la résistance civique à ce phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire celui de l'éparpillement, du morcellement communautaire, voire communautariste de la société française ?
Bien, on le constate à travers un certain nombre de phénomènes. C'est un diagnostic qu'on a pu établir, que les sociologues, un certain nombre de politologues comme Fourquet ou bien d'autres ont pu identifier. Donc, ce qui se finit par...
Les dix politologues ne sont pas là pour ça. Hein. Ils ne sont pas là pour proposer des issues ou des ripostes. Ils sont là pour prendre une photo de la réalité, aussi décourageante soit-elle. Nous, c'est vrai que dans cette émission, on a aussi vocation à tracer des chemins d'espérance raisonnable.
Oui, bien sûr. Alors, il y a un air du temps qui nous pousse dans cette direction. C'est un air du temps qui, un, repose sur le fait que précisément nous avons de plus en plus, nous sommes confrontés à l'émergence et à la croissance de courants politiques ou religieux identitaires. Et puis, nous sommes aussi confrontés au soft power anglo-saxon qui nous impose des modèles de société, en tout cas des schémas mentaux, dans lesquels la société est composée de communautés juxtaposées. Eh bien, moi, je plaide pour que nous nous ressourcions à l'aune de cet universalisme émancipateur, parce que cet universalisme, il n'est pas assimilable à l'uniformité, comme certains de ses détracteurs voudraient le faire croire. Il dit simplement unité du genre humain, égalité des droits entre les citoyens. Et il dit également qu'il faut faire confiance à l'individu, à chaque individu. Chaque individu a des potentialités qu'il doit avoir la possibilité de pouvoir déployer. Dans la logique identitaire qui est celle dans laquelle nous sommes plongés, c'est au contraire le groupe qui prime sur l'individu. Et donc l'individu est assigné à ses origines, à ses héritages, à sa naissance, etc.
Alors ça, c'est fondamental parce que vous êtes un des intellectuels qui réfléchissait à la matrice républicaine. Vous n'êtes pas le seul, mais vous inscrivez dans la filiation de ceux qui ont cherché à régénérer le courant républicain. On pense évidemment à notre ami disparu Laurent Bouvet, mais vous n'êtes pas, évidemment, la liste n'est pas close. Alors justement, c'est très important. Rejeter les holismes sociaux et identitaires. Remettre au cœur l'individu en tant qu'il est un acteur de son propre savoir et de sa propre émancipation. Très concrètement, aujourd'hui, effectivement, l'un des lieux où ça se joue, c'est l'école de la République. Est-ce qu'on peut dire que les pouvoirs publics ont tout lâché, ont tout abandonné? Est-ce que c'est équitable de dire cela?
Non, bien sûr, je pense que beaucoup s'efforcent de faire le maximum, et je pense notamment aux enseignants qui sont confrontés à des réalités extrêmement difficiles, et il faut se mettre à leur place lorsqu'ils ont à gérer cette réalité. Mais pour autant, je crois que, puisque vous parlez de l'école, probablement la République a-t-elle abandonné la mission qui lui avait été assignée au siècle dernier. Je pense en particulier à cette très belle phrase de Ferdinand Buisson, le premier devoir d'une République, c'est de faire des républicains, et où fait-on des républicains sinon à l'école de la République? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'école de la République se donne cette mission de fabriquer, de faire des républicains.
Alors, il y a un autre problème, vous l'esquissez dans votre article, Philippe Foussier, nous sommes dans divers aspects de la pensée. C'est contemporaine, vous êtes ancien grand maître du Grand Orient, on commence bien l'année avec vous, hein, Philippe. Vous l'esquissez, c'est le décrit, c'est le discrédit qui frappe aujourd'hui l'action publique. Est-ce que quand on est un républicain de bataille, comme vous, hein, à la Clémenceau, il ne faut pas aussi répondre à cette démagogie, à ce dégagisme très répandu qui abîme autant que le communautarisme les fondements de notre République laïque et émancipatrice?
Oui, bien sûr. Alors, l'action publique n'est pas sans
reproche.
Sans reproche, hein. Si nous en sommes là, c'est aussi parce que le cours de l'action publique, avec ses responsables, qu'ils soient nationaux et locaux, nous ont entraînés dans cette direction, même s'il y a aussi des contraintes internationales qui dépassent de loin leurs propres responsabilités.
Vous m'autorisez cette incise, hein. Oui. Vous êtes un peu timide sur ce terrain-là.
Non,
vous
pas
êtes...
du tout.
Non, enfin, vous êtes... Vous êtes puissant sur le rejet du holisme communautariste.
Ouais.
Vous êtes un peu plus prudent sur la défense de l'action publique, mais c'est vrai que l'espace médiatique, une grande partie de l'espace médiatique, notamment sur des chaînes d'information très politisées, est un espace de carton absolu sur les responsables politiques.
Hein. Oui, mais ça va de pair avec le diagnostic posé précédemment. C'est parce que nous sommes dans une période où triomphent les intérêts particuliers. Mmh. Que précisément ce discrédit à l'égard de l'action publique et de tout ce qui représente l'intérêt général vient trouver une assise. Et par conséquent, l'universalisme, la citoyenneté républicaine et la notion d'intérêt général, tout ça est parfaitement lié. Et la raison pour laquelle nous sommes, je dirais, sur la défensive, c'est parce que nous avons laissé nos adversaires déterminer l'agenda identitaire, déterminer l'agenda du triomphe des intérêts particuliers, déterminer l'agenda du discrédit de l'action publique, etc., etc. Voilà pourquoi nous en sommes là. Et donc, j'en appelle à un retournement de situation. J'en appelle à ce que nous fassions en effet la reconquête intellectuelle, culturelle, qui a été posée notamment par les Lumières et qui a été enrichie par la suite par un certain nombre de combats.
Alors, je vais aller droit au but. La Troisième République, c'était une République où il y avait une exaltation de la fraternité civique. Hein, c'était même au cœur, j'allais dire, de sa matrice. Ça ne voulait pas dire que dans le réel, on était toujours à la hauteur de cet objectif, mais en tout cas, elle était exaltée. Vous écrivez dans votre article, la fraternité, c'est aussi et surtout un vécu, un partage, une volonté d'unir, de relier. Vous citiez certains sociologues tout à l'heure où il y a une préoccupation de beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui est de retisser le lien entre les Français,
oui. Hein,
de retisser ce plébiscite de tous les jours qu'avait évoqué dans un texte célèbre Ernest Renan. En quoi, justement, les ateliers maçonniques, les obédiences maçonniques peuvent-elles être un lieu qui apporterait sa pierre à l'édifice de cette reconstruction collective?
Eh bien, précisément, c'est parce que la démarche maçonnique elle-même et la manière dont la franc-maçonnerie conçoit les choses depuis trois siècles s'inscrit dans cette logique-là. Le grand maître, le nouveau grand maître, Pierre Bertinotti, mm-hmm. qui vient d'être installé...
Qui sera d'ailleurs notre invité le mois prochain.
Voilà, il vous parlera de la priorité du fil rouge de son année, qui est consacré au pacte social.
Tout à fait. Hein,
et donc, ça s'inscrit dans cette, en effet dans cette logique, parce que nous avons en effet la passion, nous autres francs-maçons, depuis trois siècles, de rassembler, de relier, de réunir des hommes et des femmes.
Philippe Foussier, on se parle vrai dans divers aspects de la pensée contemporaine. C'est l'une des marques de fabrique de cette émission de France Culture. Est-ce que la maçonnerie en France, qui représente certes plusieurs centaines de milliers de personnes, est suffisamment extériorisée?
Écoutez, chaque obédience a ses traditions, a ses coutumes, et je ne suis pas là pour parler des autres. Mais le Grand Orient de France consent beaucoup d'efforts dans ce sens et ouvre ses temples, organise des conférences publiques, des tenues blanches, etc., etc. Donc nous prenons notre part. Peut-être de façon insuffisante, mais nous prenons notre part, et puis à travers ce genre d'émissions, à travers les publications, je vous renvoie à la parution il y a quelques jours d'un numéro hors série formidable sur la laïcité, à l'occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905, hors série de la revue Humanisme, qui est un numéro tout à fait excellent, qui est publié par les éditions conformes également. Et donc, nous prenons effectivement notre part, mais peut-être il y a des efforts supplémentaires à faire.
Alors, Philippe Foutier, c'est passionnant. Toute dernière question, ça s'inscrit dans la réflexion sur le pacte social, qui va être au cœur de l'obédience cette année. Comment parler, quel message de fraternité adresser à nos compatriotes musulmans?
Écoutez, moi, je n'ai pas de discours destiné à telle ou telle catégorie.
C'était pas tellement le sens de ma question, mais...
Oui, mais je veux dire, moi, la notion de citoyenneté républicaine, elle fait fi des appartenances et des convictions. Et donc, nous nous adressons à des citoyens indépendamment de leurs croyances que nous respectons, mais c'est leur affaire. Et donc, d'une certaine manière, je n'ai rien à adresser en particulier à ceux-là. Lorsque je m'adresse à mes concitoyens, c'est à l'ensemble de mes concitoyens.
On vous remercie chaleureusement,
c'est
Philippe
moi qui
Foussier,
vous remercie, Alexis,
d'avoir fait un tour par divers aspects de la pensée contemporaine. Je rappelle Marianne aux éditions d'Hervy. Votre article, un peu refondateur de la pensée républicaine dans l'excellent droit de vivre. On vous souhaite un très bon mois de septembre. Et en octobre, on se retrouvera, on l'a évoqué, avec le nouveau grand maître du Grand Orient de France, Pierre Bertinotti. C'était divers aspects de la pensée contemporaine, une émission à la technique Grégory Wallon, qu'on remercie chaleureusement, à la réalisation notre ami Philippe Baudouin, qu'on remercie tout aussi chaleureusement, et à la coordination éditoriale, l'indispensable Claire Poinsignon. On vous souhaite à toutes et tous, chers auditeurs de France Culture, un excellent mois de septembre.